Salut à tous et à toutes, merci d'être là, bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, plus de 1000 nouveaux arrivants seront d'ici peu privés de cours de francisation à Québec-Ville.
Mais les gens, c'est pas des pions.
C'est un non-sens. On est devant le gouvernement Legault, qui dit « moi, je fais de l'éducation ma priorité, je fais de la francisation ma priorité ». Il n'y a personne qui comprend la logique ou le rationnel de tout ça.
Les dés sont lancés dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, mais un des candidats estime que de parler français n'est pas ce qu'il y a de plus important.
Dans le cas de M. Arria, c'est pas seulement qu'il ne parle pas français, c'est qu'il a complètement mis de côté l'importance de la langue et la valeur que la question linguistique porte.
Et alors qu'on se cherche un ou une nouvelle chef au Parti libéral du Canada, le chef conservateur, lui, Pierre Poilievre, attire les foules à Edmundston.
On est très heureux de partager notre message de gros bon sens, c'est-à-dire de couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget, stopper les crimes et mettre le Canada d'abord.
Et alors que Pierre Poilievre se réjouit des derniers sondages, d'autres se lancent en politique, prêts à affronter vents et marées. Ginette Lavaque, directrice générale du Centre culturel franco-manitobain, annonce sa candidature à l'investiture libérale fédérale dans la circonscription de Saint-Boniface. Saint-Vital.
Je pense qu'il y a quand même au sein du Parti libéral plusieurs personnes bien équipées pour aider à continuer à faire progresser le pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Eh bien, merci d'être avec nous. Boris Chassagne au micro. Je serai avec vous pour les 30 prochaines minutes, accompagné de nos correspondants nationaux. Environ 1000 étudiants du Centre Louis-Joliette n'auront plus accès à leurs cours de francisation, faute de fonds. La mesure est effective depuis le 24 janvier dernier. Un financement de dernière minute accordé par le ministère d'Éducation du Québec va cependant permettre au Centre de services scolaires de la capitale de conserver une centaine d'élèves à temps partiel, mais seuls 6 des 60 groupes inscrits pourront conserver leurs acquis. Les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement Legault affectent également les deux autres centres de francisation de Québec. Le Centre Saint-Louis n'accueille désormais plus aucun étudiant et le Centre Phoenix fermera ses classes le 11 avril. Ces deux établissements recevaient à eux seuls 867 élèves l'automne dernier. Les précisions d'Alice Zanetta.
C'est une dernière journée difficile pour les étudiants en francisation du Centre Louis-Joliette, le plus important à Québec. Dès vendredi, ce sont 1000 élèves qui sont privés de cours de français.
Oui, c'est la dernière journée. Je me sens très triste et un peu bizarre.
Laura est originaire de Colombie et comptable de formation. Ce jeudi, elle se sent déboussolée.
Je crois que l'école, pour moi, c'est le moyen d'être ensemble des personnes qui vivent la même situation que moi. Et je crois aujourd'hui que je ne sais pas ce que je vais faire demain. Et si tu ne peux pas parler français, tu ne peux pas travailler.
Sa camarade, Maria Johanna, s'était inscrite au cours à temps plein. Elle avait essayé de conjuguer un travail et des cours du soir, une situation qui, selon elle, ne lui permettait pas de progresser assez rapidement dans l'apprentissage de la langue.
C'est très mal, triste, parce que j'ai décidé de retourner à l'école pour continuer la francisation, mais quand j'ai retourné, tout le monde dit « non, la francisation va arrêter ».
Maria Johanna essaye d'obtenir son niveau 5 de français, le niveau minimum requis par l'immigration québécoise pour accéder à la résidence permanente.
C'est vraiment des montagnes russes qui font vivre à tout le monde.
Au Centre Louis-Joliette, les étudiants et les enseignants s'accordent à dire que les restrictions budgétaires en francisation du gouvernement Legault donnent le tournis. Alors que tous les cours de francisation devaient être coupés vendredi, le Centre de services scolaires de la capitale a appris in extremis qu'il recevra un financement supplémentaire du ministère de l'Éducation. Il permettra de garder 100 élèves sur les 1127.
Donc, comparé au début de l'année, si on a commencé avec 60 groupes, 6 groupes, c'est rien.
L'enseignant Irving Ortiz s'inquiète qu'une grande partie des nouveaux arrivants soit abandonnée.
S'intégrer, ce n'est pas des blagues, là. L'intégration est très importante. Ils vont faire quoi? Puis il y a des listes d'attente. Il y a des élèves qui sont venus me voir pour me dire qu'il y en a un qui a attendu un an avant de commencer d'avoir accès au cours de français. Un an.
L'enseignante Julie Damien reproche que cette annonce soit faite à la dernière minute, alors que l'argent, dit-elle, était vraisemblablement disponible.
Ça fait 3 mois, nous, qu'on dit aux étudiants: désolé, le 24 janvier, il n'y aura plus rien pour vous. Mais les gens, ce n'est pas des pions. On est content pour les gens qui vont pouvoir poursuivre, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais la manière, comment c'est annoncé, le moment où c'est annoncé, c'est pas une belle nouvelle comme ça, de faire ça comme ça.
Les deux autres centres de francisation à Québec ne sont pas non plus épargnés par les coupes budgétaires. Le centre Saint-Louis, qui appartient aussi au centre de services scolaires de la capitale, ne fournit plus de cours de francisation. Le centre Phoenix, qui a déjà fermé la quasi-totalité de ses classes en novembre, va suspendre le reste de ses cours le 11 avril prochain. Avec ses fermetures actuelles et celles à venir en francisation dans les 3 centres de Québec, ce sont donc près de 1900 étudiants qui n'ont plus ou n'auront plus bientôt accès à la francisation. Du côté des enseignants, ils sont environ 130 à avoir été impactés, pour la plupart licenciés et pour une petite portion affectés à d'autres services.
Jamais dans l'histoire, là, de ce que j'ai pu observer, là, on a dit à des élèves qui fréquentaient un service dans le réseau scolaire, là, « Désolé, on t'offrira plus le service. » Moi, j'ai jamais vu ça.
Le président du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, Martin Hogg, représente les enseignants au Centre Phoenix.
C'est un non-sens. On est devant le gouvernement Legault, qui dit « Moi, je fais de l'éducation ma priorité, je fais de la francisation ma priorité. » Il n'y a personne qui comprend la logique ou le rationnel de tout ça, si ce n'est que des enjeux purement financiers. Et c'est l'incertitude totale quant aux paramètres d'allocation budgétaire pour l'année scolaire 25-26.
Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, est responsable des programmes en francisation. Il affirme avoir ouvert de nouvelles classes dans les cégeps, universités et organismes communautaires pour pallier les coupes dans les centres de services scolaires. À Québec, c'est l'Université Laval et le Cégep Sainte-Foy qui offrent des cours de francisation, en plus de plusieurs organismes à but non lucratif. L'Université Laval a ajouté une classe pour cet hiver et compte en tout 115 élèves. Au Cégep Sainte-Foy, on n'a pas souhaité préciser le nombre d'élèves reçus, mais il est le même depuis 2023.
On peut se demander encore une fois, est-ce que ça sera suffisant?
Le porte-parole du collectif Francisation, Vincent Vachon, estime que les centres de services scolaires dispensent 40% des cours de francisation aux adultes. Pour cet ex-enseignant en francisation de Sherbrooke, il est évident que le MIFI ne répond pas aux besoins grandissants.
Si on pense aux 45 000 personnes qui attendaient au début de l'année, plus toutes les personnes qui ont été envoyées, bien, on se pose sérieusement la question, est-ce que le MIFI va être capable de répondre à la demande? C'est parce qu'actuellement, il ne le fait pas du tout. Le gouvernement exige aux immigrants d'apprendre le français en 6 mois, en ce moment, avec la loi 96. Donc, après 6 mois, ils doivent recevoir obligatoirement des services en français, les services d'État. Mais actuellement, ils vont attendre plus de 1 an et demi sur les listes, où ils vont se retrouver à suivre des cours comme ça de soir, à temps partiel, dans des cours multiniveaux qui ne sont pas adaptés à leurs besoins nécessairement. Là.
Le collectif Francisation affirme que le MIFI met en place de la sous-traitance en ouvrant des postes de formateurs en français, alors qu'il s'agit de tâches qui relèvent d'un enseignant. Il déplore aussi le démantèlement des centres de francisation nés il y a 20 ans et donc la perte de leur expertise. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Quittons la capitale provinciale pour rejoindre celle du pays, Ottawa, où certains se demandent si le prochain chef du Parti libéral du Canada devrait être bilingue. La course à la chefferie, comme vous le savez, du Parti libéral du Canada est bien entamée depuis la démission en début d'année de Justin Trudeau, lequel est encore d'ailleurs l'actuel premier ministre du pays jusqu'au 9 mars prochain. Mais la nouvelle recrue devra-t-elle être bilingue? Le député et candidat à la chefferie députée du Parti libéral du Canada, Chandra Arya, unilingue anglophone, a déclaré que parler français n'est pas ce qu'il y a de plus important. Une opinion que ne partage pas Stéphanie Chouinard, qui est professeure agréée en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario, qui estime que les Canadiens s'attendent à ce qu'un chef politique s'exprime dans les deux langues officielles du pays. Annette Minka, à Toronto, en Ontario, lui a parlé.
C'est un rôle fondamental, d'une part parce que les chefs des partis politiques fédéraux sont des aspirants ou sont premiers ministres. Dans le cas du chef ou de la chef qui sera choisie le 9 mars prochain, cette personne-là deviendra de facto premier ministre du Canada. Du côté du Parti libéral, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, les jeunes libéraux en ont fait une demande expresse que le chef ou la chef puisse parler de façon courante dans les deux langues officielles. Mais c'est une attente aussi de la part d'une bonne partie de la population canadienne, que la personne qui soit la première ministre ou le premier ministre du Canada puisse être en mesure de communiquer avec tous les Canadiens et toutes les Canadiennes dans la langue officielle de leur choix.
Le député Chandra Arya a minimisé l'importance du français dans sa course à l'élection. Quel défi un politicien qui est unilingue pourrait-il rencontrer dans des régions majoritairement francophones comme le Québec ou le Nouveau-Brunswick?
Dans le cas de M. Arya, c'est pas seulement qu'il ne parle pas français, c'est qu'il a complètement mis de côté l'importance de la langue et la valeur que la question linguistique porte dans le contexte de la politique canadienne. Et là, je pense que sa lecture de la situation est tout à fait erronée. C'est près d'une centaine de circonscriptions au Canada, 78 au Québec, mais une vingtaine à l'extérieur des frontières de la province québécoise où les francophones comportent soit la majorité ou une proportion assez importante de l'électorat pour faire une différence durant une élection fédérale. La question linguistique, elle est importante et elle l'a toujours été au Canada. C'est une attente qu'on a aujourd'hui envers nos politiciens, pas nécessairement qu'ils parlent parfaitement les deux langues officielles, mais qu'ils soient en mesure de au moins passer la base de leur message dans les deux langues officielles. On a ici un candidat qui, par ses propos sur le bilinguisme, je pense qu'il s'est en fait disqualifié lui-même de la course et c'est un peu de la façon, je pense, dont les militants libéraux l'ont aussi perçu, si on en croit la vague de dénonciation qui est venue après son entrevue à la CBC où il avait fait cette remarque-là quand on lui avait demandé s'il parlait français.
Et comme on le sait, la maîtrise, comme vous venez de le dire, la maîtrise du français est une exigence, j'ai envie de dire, politique. Mais pensez-vous que dans un Canada de plus en plus multiculturel, pensez-vous que l'électorat canadien valorise encore le bilinguisme chez ses dirigeants ou s'agit-il d'une priorité en déclin?
Ça, c'est une rumeur qui va bon train depuis longtemps que les Canadiens issus de l'immigration portent moins attention à la question du bilinguisme que les Canadiens soi-disant de souche, alors que les sondages auprès des Canadiens et des Canadiennes démontrent le contraire, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants mettent plus de valeur sur la question des langues officielles et du bilinguisme que les anglophones canadiens de souche.
À noter que 4 des 7 candidats qui ont publiquement annoncé leur intention de briguer la direction du Parti libéral du Canada parlent français. Ces candidats sont l'ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland, l'ex-leader en chambre du gouvernement libéral Karina Gould, l'ancien directeur de la Banque du Canada Marc Carney et l'ancien élu montréalais Frank Baylis. C'était un reportage d'Annette Minka dans le cadre d'initiative Journalisme local à Toronto.
Et alors que les candidats à la chefferie du Parti libéral fédéral tentent de rallier les militants à leur cause, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, était de passage à Edmundston pour entamer une tournée des Maritimes. Il en a profité pour visiter des usines de la région d'Edmundston avant de se retrouver devant quelques centaines de partisans et de curieux le 22 janvier dernier. Fidèle à ses habitudes, il n'a pas été tendre envers ses adversaires politiques et bien sûr envers les libéraux. Pierre Pierre Poilievre a promis, s'il est élu, de redresser l'économie. Devant une foule déjà conquise, le chef conservateur a abordé les sujets qui font sa popularité, comme l'accès à la propriété et la création de richesses. Michael Robitaille à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.
C'est son mandat d'origine, c'est-à-dire de protéger la valeur de notre dollar au lieu de créer de l'argent pour les politiciens de dépenser. And we will not allow a central bank digital currency ever in this country.
Kiosque de souvenirs, musique rock entraînante et une salle remplie de partisans survoltés, il n'y a pas à dire, Pierre Poilievre sait se faire aimer par ses partisans. Profitant de son passage à Edmundston, le chef du Parti conservateur du Canada avait convié ses partisans conservateurs à une rencontre en soirée. Ayant visité des usines de la région plus tôt en journée, Pierre Poilievre a livré un long discours enflammé plus tard en soirée. Il s'est livré ensuite à une séance de photos, d'échanges et même d'autographes avec ses supporters. Certains ont même fait plusieurs heures de route, comme ce résident de Bathurst.
Oh, on a adoré son discours, écoute, puis je pense que M. Poilievre, j'ai pleinement confiance en lui. Notre Canada, il va mal, tu vois, mais je suis vraiment confiant que Pierre Poilievre va ramener notre Canada comme dans le bon vieux temps, notre bon vieux Canada, où ce que les jeunes vont pouvoir se bâtir une vie, vont pouvoir s'afforder une maison, où ce que notre chèque de paie va valoir quelque chose.
Même des plus jeunes qui n'ont pas encore l'âge d'exercer leur droit de vote y étaient et avaient hâte de rencontrer le politicien.
C'est pas mal une expérience. Pas comme un autre. Écoute, tu le vois beaucoup, M. Poilievre, sur les télés. Tu le rencontres pas mal jamais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'opportunité de le rencontrer. C'est vraiment une bonne expérience. C'est une chance de le rencontrer. C'est un bon gars. C'est un gars smart.
Quand j'écoutais la présentation, j'ai senti comme fier que je peux être confiant dans lui pour comme être le prochain premier ministre du Canada. Puis quand j'ai été le parler, je fais comme j'ai eu une bonne conversation avec.
Je suis pas de Parti conservateur, puis même, je vais acheter ma carte de membre. Mais ouais, c'est sûr, j'ai pas l'âge de voter, mais je les supporte pareil.
Je trouve ça beau, là. J'entendais 16 ans, 17 ans, puis c'est important parce que c'est leur futur qui est impacté, tu vois, de ces jeunes-là. Puis je trouve ça bon que des jeunes comme ça s'impliquent. Ils sont informés, sont conscients de qu'est-ce qui se passe dans la société, puis ça augure bien pour notre futur.
Jean-Pierre Ouellette, maire du Haut-Madawaska et président de l'Association progressiste conservatrice provinciale de Madawaska et Lac Edmundston, était sur place et avait eu l'occasion de discuter avec le chef conservateur plus tôt dans la journée.
J'ai eu l'occasion également de le voir cet après-midi chez Sunimel à Claire, où il a fait une visite de l'usine. Puis j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui, puis discuter de certains enjeux qui sont reliés au financement des municipalités et des infrastructures. Ça fait que ça m'a donné la chance de pouvoir converser avec quelqu'un qui peut devenir le premier ministre du Canada.
Pierre Poilievre était d'ailleurs très enthousiaste suite à sa rencontre avec ses partisans conservateurs du Madawaska. Il en a profité pour répéter son fameux slogan à maintes reprises.
On est très heureux de partager notre message de gros bon sens, c'est-à-dire de couper taxes, impôts, bâtir des logements, réparer le budget, stopper les crimes et mettre le Canada d'abord.
Le chef du Parti conservateur poursuivra son voyage au Nouveau-Brunswick alors qu'il se déplacera du côté de Fredericton et par la suite, il ira en Nouvelle-Écosse lors des prochaines journées. Michael Robitaille, Edmundston pour IJL.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Et pendant que Pierre Poilievre se réjouit des derniers sondages, d'autres se lancent en politique, prêts à l'affronter contre vents et marées. C'est le cas de Ginette Lavac, qui est depuis 2017 la directrice générale du Centre culturel franco-manitobain et qui a officiellement annoncé sa candidature à l'investiture libérale fédérale dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital au Manitoba. Forte de son expérience à la tête du CCFM, acteur clé de la francophonie manitobaine. Madame Lavac souhaite succéder à Daniel Vidal, le député sortant, qui a décidé de ne pas briguer un quatrième mandat. Elle entend représenter sa communauté à Ottawa en apportant une perspective nouvelle et en défendant les priorités locales dans un contexte politique en pleine transition pour le Parti libéral. Il est crucial, dit-elle, de maintenir une voix forte à Ottawa et j'aimerais que cette voix soit la mienne. Elle est en compagnie de Gaël Mpoyou à Winnipeg, au Manitoba.
Ginette Lavac se lance dans cette aventure politique avec l'ambition de succéder à Daniel Vandal, l'actuel député libéral de Saint-Boniface-Saint-Vital, qui a annoncé en octobre qu'il ne briguerait pas à un quatrième mandat. Depuis 2015, Daniel Vandal a été une voix influente à Ottawa et Ginette Lavac entend continuer ce travail tout en y apportant sa propre perspective.
Vous savez, c'est vraiment le fait que Daniel a choisi de ne pas se représenter qui a vraiment déclenché chez moi une réflexion plus sérieuse. Je crois que c'est aussi le fait que récemment, je me suis impliquée à un niveau fédéral avec mon travail sur le conseil d'administration de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui m'a vraiment comme éveillée à tous les enjeux importants auxquels font face nos communautés francophones en situation minoritaire. Puis j'ai aussi vu récemment, particulièrement avec le travail qui a été fait ici au CCFM, ce qui peut arriver lorsque la communauté travaille avec les élus de près, lorsqu'on s'appuie vraiment, on s'écoute. On a eu du succès ici au CCFM d'avoir un financement renouvelé, augmenté. Donc, je pense que là, j'ai eu l'intérêt de me dire, ben quoi si je tournais la page, quoi si je regardais à l'autre côté de la médaille pour me dire, soyons de l'autre côté des décideurs, parce que je comprends de très près qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on appuie nos organismes, puis je veux faire partie de ceux qui sont les décideurs dans ça.
Et pourquoi le choix du Parti libéral?
Bien, pour moi, ça m'est plus proche, c'est plus en lien avec mes valeurs personnelles. Et je crois que, en dépit du fait qu'on n'a pas tout accompli, pas tout est parfait, certainement, il y a énormément de bons progrès qui ont été faits sous un gouvernement libéral. Puis moi, j'aimerais voir que ces progrès-là, ces progrès durables, demeurent et continuent.
Et parce que là, dans les sondages actuels, il y a une chute de popularité de ce parti sur le plan fédéral, même ici au Manitoba.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas peur de se lancer dans une si grande bataille avec cette situation-là?
Non, il ne faut pas avoir peur. Justement, c'est le moment le plus important où il faut se serrer les épaules puis se dire non, on avance, on y va. On ne veut pas perdre le terrain qu'on a déjà gagné. Et je pense qu'il faut se dire que c'est en s'appuyant l'un l'autre puis en écoutant à la circonscription. Puis, bien sûr, il vient un temps où ce que les gens se fatiguent. On voit un certain personnage, un politicien devant nous, l'histoire devient vieille. On a besoin d'un renouvellement. Puis, ça se comprend, ça. C'est historique que ça s'est toujours passé comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a quand même, au sein du Parti libéral, plusieurs personnes bien équipées pour aider à continuer à faire progresser le pays. Et puis, moi, je veux me rajouter à ces voix-là. Puis ça va être très, très intéressant de voir justement le concours pour la chefferie, comment ça va se passer puis se dérouler. Mais j'ose croire qu'il y a vraiment du potentiel pour renouveler efficacement le parti puis avancer pour gagner. Il y a un grand travail à faire pour représenter bien Saint-Boniface-Saint-Vital. C'est une grosse circonscription. Mm-hmm. Elle n'est pas uniquement francophone. Il va falloir aller vers l'anglophonie, puis la multiplicité de cultures qui se trouvent. C'est vraiment un microcosme du pays national, notre circonscription. So, je pense que ça aussi, c'est très intéressant pour moi d'aller voir ça, explorer ça, puis de connaître les gens chez nous. Je me dis, je me compte très chanceux de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui m'appuient puis qui voient que ça leur paraît aussi comme si c'est une progression naturelle pour moi puis ma carrière puis que vraiment je suis une personne bien placée pour le faire.
Alors parce que vous allez représenter, vous avez les ambitions de représenter Saint-Vital et Saint-Boniface, selon vous, quels sont les enjeux le plus pressants pour les résidents de cette circonscription?
C'est l'économie, on parle certainement beaucoup de ça, mais vous savez, le monde aujourd'hui, c'est un monde, c'est global. Mais ces choses-là ont des réels impacts ici chez nous pour les gens de nos circonscriptions également. Alors, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler à améliorer ces situations-là. C'est pas uniquement à un niveau de gouvernement, puis comme j'ai dit, il y a des influences ailleurs qui ont des impacts importants chez nous, mais c'est quand même le rôle du gouvernement de jouer un rôle protagoniste dans toute cette histoire-là, de mener le pays dans ces circonstances difficiles. Alors, c'est en étant à l'écoute, c'est en parlant avec des gens qui ont vraiment des expertises importantes, qui peuvent nous guider là-dedans aussi, puis nous apprendre les bonnes décisions.
Winnipeg, Gaël Pouilloux pour IGL.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Et en terminant, à vous qui passerez par Ottawa en 2028 et qui penserez à prendre le pont Alexandra, eh bien non, il sera en train d'être démoli. Le pont Alexandra, qui ressemble du moins pour quelques années encore à un mini-pont Jacques-Cartier, a soufflé ses 120 bougies, mais il sera remplacé par une structure plus contemporaine. La Commission de la capitale nationale, le CCN, a le 23 janvier dernier arrêté son choix sur un concept développé par l'entreprise Motion, parmi les trois propositions qui lui avaient été présentées. Le concept éco, le plus populaire auprès de la population en raison de son design original, n'a pas été retenu par la CCN. Mais la présidente de la CCN, Maryse Gaudreau, précise que la conception du pont sélectionné n'est que préliminaire et achevée à 15 % des commentaires du public, des parties prenantes, des communautés autochtones et des experts seront pris en considération lors des prochaines consultation. Gabriel Poulin à Ottawa, en Ontario.
Après 124 ans d'histoire, le pont Alexandra se modernise. La Commission de la capitale nationale, la CCN, a dévoilé le 23 janvier son concept privilégié pour remplacer le pont actuel. Des trois modèles qui avaient été présentés à l'automne, c'est le concept Motion qui a été retenu par le conseil d'administration de la CCN après des mois d'études et de consultations. Le pont sera constitué de trois arches qui se déploient sur ses deux faces. La future structure offrira une piste cyclable, une voie piétonne et deux voies pour la circulation automobile qui pourraient être adaptées pour le passage d'un tramway. Selon le rapport de la deuxième ronde de consultation publique sur le projet, le concept éco, qui rappelle l'architecture de la structure actuelle, était le plus populaire auprès de la population. Le concept choisi, Motion, s'est classé troisième. À ce sujet, Maryse Gaudreau, présidente de la CCN, note que le sondage auprès du public ne consistait pas en un référendum.
Les gens étaient contents de pouvoir donner leur opinion et tout ce qu'on a pu amasser sur les deux autres options vont être analysés pour être incorporés au final au projet Motion.
La CCN explique que divers critères ont été évalués, comme l'expérience usagée, l'intégration dans le paysage, la perspective visuelle, et des études patrimoniales, environnementales et en archéologie. Le choix du concept a entre autres été soutenu par des commentaires du public, des parties prenantes, des communautés autochtones et des partenaires. D'autres consultations seront prévues dans les mois à venir pour approuver le concept final du pont. Pour Mathieu Fleury, ancien conseiller municipal de Rideau-Vanier, il faudra maintenir un accès entre Ottawa et Gatineau après la démolition du pont.
C'est malheureux de voir une infrastructure aussi vieille quittée, mais quand il y a des décisions qui sont prises pour faire partie de la solution. Donc, il y a eu trois propositions. Évidemment, celle qui a été qui est proposée, c'est moderne, c'est beau, ça s'intègre bien. Ça va être difficile pour la région de perdre un pont en 2028. Démolir ce pont-là, c'est un accès pour les résidents. Mais c'est un accès pour le tourisme. Hein, quand on pense, j'ai hâte de voir des solutions. Je sais qu'il y en a qui ont parlé de bateaux pour traverser. Réellement, il va falloir trouver des solutions jusqu'à temps que le pont soit reconstruit.
Selon la CCN, la conception du pont n'est achevée qu'à 15 % La couleur et les matériaux seront décidés dans les prochains mois. La déconstruction du pont Alexandra et la construction du nouveau pont sont prévues entre 2028 et 2032. Gabriel Poulin, IGL, Ottawa.
Et c'est sur ce reportage de Gabriel Poulin que se conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes, IGL, Annette Minka, Michael Robitaille et Alice Zanettaille. On le vous l'a dit, Gabriel Poulin. Merci à Julia Chenu, notre rédactrice nationale. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et de l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci à votre radio locale et à vous d'être là. Écrivez si ça vous tente radio@fréquenceinfo.ca radio@fréquenceinfo.ca. Allez, c'est tout pour nous. À la semaine prochaine. Ciao.